dois commencer par vous saluer, évidemment, saluer toute cette belle assistance et saluer tout le collectif militant, le collectif Guerre à la Guerre et l'interorga Stop Bourget pour le succès de ce contre-sommet. Et je salue aussi l'ensemble des organisations qui se sont mobilisées aujourd'hui contre ce salon de la mort. Je salue tout particulièrement nos frères et sœurs qui ont animé, participé et assisté durant ces derniers jours à l'espace souverain Malcolm X, avec nos frères d'Urgence Palestine, de Cage International, de la Ligue panafricaine Umoja, de Perspectives musulmanes et bien sûr du Parti des indigènes de la République. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'assister à nos groupes de travail, on vous attend encore plus nombreux la prochaine fois, Inch'Allah. C'est important, et la suite de ce que je vais dire va tenter d'expliquer pourquoi. Durant ces deux jours, dans notre espace, plusieurs excellentes interventions ont eu lieu sur l'islamophobie d'État, sur la répression en France, en Angleterre, en Autriche, et sur le lien général avec l'offensive génocidaire israélienne. Je voulais donc, dans les quelques minutes, parce que 10 minutes, c'est pas beaucoup, hein, donc on se retrouve à écrire un texte et à éliminer des choses, donc durant ces quelques minutes, j'ai envie juste d'ajouter une dimension qui, à mon sens, est importante. On parle d'islamophobie, tout comme on parle de négrophobie, pour désigner une forme spécifique de racisme. À ça aussi s'ajoute l'antiziganisme, l'antisémitisme, bien sûr, ou encore ce que nos frères et sœurs désignent comme le racisme anti-palestinien. Je suis en train de compartimenter, là, ces formes de racisme spécifiques. Cette compartimentation, elle est nécessaire. Et j'expliquerai pourquoi plus tard. Mais on a besoin d'une perspective conceptuelle claire pour ne pas se transformer dans ce que nos ennemis appellent la foire d'empoigne des opprimés ou les Jeux olympiques de l'oppression. Ça, c'est une vision d'extrême droite. Mais souvent, on présente nos mouvements comme des mouvements destinés à se diviser justement à cause de la spécificité des formes de racisme. On s'attend à ce que les Arabes tombent contre les Noirs, que les musulmans se retournent contre les chrétiens, etc., etc. Or, ce que je veux éclaircir avec vous aujourd'hui, c'est que le spectre de la race, et c'est-à-dire le spectre de la guerre, nous recouvre tous, nous, descendants et survivants du génocide, de la colonisation et de l'esclavage. Parce que nous participons toutes et tous de la même altérité radicale, celle contre laquelle l'Europe occidentale a constitué son identité. Cette altérité radicale, le gouvernement français l'appelle depuis quelque temps les frères musulmans. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Mais tout ça, ça vient de bien plus loin. Je vais donc commencer par un exemple facile, en rappelant les tableaux de classification que le régime nazi, oui c'est facile, les nazis ils nous mettent tous d'accord, hein. Donc les tableaux de classification que les nazis produisaient pour décrire les races inférieures. Les juifs européens étaient présentés comme une extension ou comme une expression subversive de la noirceur. Je ne vais pas vous donner l'expression en allemand parce que je n'utilise pas des mots racialement connotés. Donc je dirais le juif en tant que noir. Ils étaient considérés à l'époque comme une cinquième colonne. Ces mots sont importants parce qu'ils sont encore valables aujourd'hui. Comme une cinquième colonne, puissante et organisée, réputée mener à bien un projet cosmopolite visant au renversement de la suprématie de la race blanche. Je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve que c'est un très beau programme. Malheureusement, on appelle ça du complotisme. Dans cette représentation, les juifs sont une étape dans la chaîne qui mène à l'altérité radicale que constituent les peuples africains. C'est important de s'en rappeler. Le projet cosmopolite, donc, qui les terrorisait à l'époque, il était réputé ouvrir la porte à des changements démographiques, sociaux, civilisationnels, qui mèneraient finalement à la minoration et à la disparition de la race blanche et au triomphe de la barbarie. On est toujours dans ce genre de discours aujourd'hui. Dans le cadre de cette perspective apocalyptique, parce que c'est vraiment une perspective apocalyptique, ceux qu'on désigne aujourd'hui pudiquement comme les gens du voyage, ils venaient également incarner le péril de la contamination raciale transfrontalière, tout comme nos frères et sœurs migrants aujourd'hui, avec le péril culturel qu'ils sont censés représenter pour les frontières sacrées et fétiches des sectateurs de l'État-nation occidentale. C'est précisément contre cela, contre cette menace, que les nazis se racontaient leur croisade, leur guerre éternelle. Et je choisis ce mot à propos, parce que j'emprunte ce terme, à celui qui va être l'objet du second temps de mon exposé. Je vous préviens tout de suite, c'est pas Malcolm X, donc je m'excuse par avance. Je vais vous citer Ernest Renan, dans une conférence au Collège de France, dans la seconde moitié du 19e siècle. Si vous ne le savez pas, Renan, il est encore souvent cité comme source pour la définition de « qu'est-ce qu'une nation ?» C'est le nom d'un des textes qu'il a écrit. Et manifestement, il n'y a pas encore de « cancel culture », pour utiliser les mots de nos ennemis, pour ce genre de grand intellectuel. D'ailleurs, tant mieux, parce que comme ça, je peux vous faire cette citation. Elle est éclairante. Donc voyez plutôt. L'avenir, messieurs, et donc à l'Europe et à l'Europe seule. L'Europe conquérera le monde et elle y répandra sa religion, qui est le droit, qui est la liberté, le respect des hommes, cette croyance qu'il y a quelque chose de divin au sein de l'humanité. Dans tous les ordres, le progrès consistera à s'éloigner de plus en plus de l'esprit sémitique. Notre religion deviendra de moins en moins juive. De plus en plus, elle repoussera toute organisation politique appliquée aux choses de l'âme. Elle deviendra la religion du cœur, l'intime poésie de chacun. À l'heure qu'il est, la condition essentielle pour que la civilisation européenne se répande, c'est la destruction de la chose sémitique par excellence, la destruction du pouvoir théocratique de l'islamisme. Par conséquent, la destruction de l'islamisme. Car l'islamisme ne peut exister que comme religion officielle. Quand on le réduira à l'état de religion libre et individuelle, il périra. L'islamisme n'est pas seulement une religion d'État, comme l'a été le catholicisme en France. C'est la religion excluant l'État. Et là vient la grande citation. Là est la guerre éternelle. La guerre qui ne cessera que quand le dernier fils d'Ismaïl sera mort de misère ou aura été relégué par la terreur au fond du désert. L'islam est la plus complète négation de l'Europe. L'islam est le fanatisme, l'islam est le dédain de la science, la suppression de la société civile, c'est l'épouvantable simplicité de l'esprit sémitique. Bon, c'est lourd, hein ? Donc après avoir fait cette citation horrible, il faut bien sûr que je précise quelque chose. C'est une citation du 19e siècle d'un personnage qu'on ne considère même pas comme le plus raciste. Donc il s'agit même de quelqu'un qui s'intéressait à l'islam, qui s'intéressait au judaïsme, qui s'intéressait au christianisme, un orientaliste. Mais pour vous rappeler une chose, c'est que donc au 19e siècle, quand on disait islamisme, on désignait l'islam tout entier. Hein. C'est sous ce terme qu'on désignait notre tradition. J'utilise pas le mot religion volontairement, parce que ce concept a été inventé par l'Occident. Tout est donc là. Là, dans les mots que je viens de vous citer, dans cette citation. Et une citation qui, si ça vous intéresse, elle est la préface d'un livre de Gilles Anidjar qui se nomme « Sémite » et qui est un livre dont la lecture est très intéressante pour toutes les problématiques qui nous concernent aujourd'hui. Cette guerre éternelle, donc, c'est une guerre de l'Occident contre le reste du monde qui est prêt à toutes les instrumentations et à toutes les ruses pour poursuivre son œuvre. Et on le voit sous sa forme la plus crue aujourd'hui. Cette guerre éternelle, c'est le véhicule de toutes les guerres menées au nom de la civilisation chrétienne, puis européenne, depuis les Francs à l'assaut de ce qu'ils appelaient leur Terre Sainte en Palestine et le gros Godefroy de Bouillon, jusqu'à l'État colonial d'Israël, qui aujourd'hui va jusqu'à innocenter les auteurs du génocide juif et joue le rôle de pointe avancée de la civilisation sécularisée que prophétisait Ernest Renan. Je voulais juste, à travers cet exemple, rappeler que l'autre nom du racisme et du colonialisme, et donc de la guerre, c'est la suprématie blanche, même quand on est au Turkestan. L'autre nom du racisme, c'est la défense de la civilisation et du progrès. L'autre nom du racisme, c'est la lutte pour imposer partout et en tout temps la suprématie de la religion ou de la laïcité, la suprématie des institutions et de l'histoire européenne sur toutes les autres. Et tous ces motifs, on les retrouve aujourd'hui dans la fuite en avant raciste, autoritaire et identitaire des gouvernements occidentaux et dans le répertoire des régimes coloniaux, à l'instar de l'État génocidaire d'Israël et dans la sale bouche de Netanyahou. Que tous nos amis progressistes qui sont ici prennent le temps de méditer encore et encore les conséquences de ce que je viens de dire. L'islamophobie, ça n'est donc pas que l'affaire des musulmans. La négrophobie, ça n'est pas que l'affaire des noirs. Et la lutte contre la frontière des États-nations, ça n'est pas que l'affaire des migrants. Et je dois ajouter aussi que la lutte contre l'antiziganisme ne concerne pas que les Roms, manouches et voyageurs. Et finalement, bien sûr, la lutte contre l'antisémitisme nous concerne tous. Nous faisons tous face à un même camp, un camp transnational. Et en même temps, ce camp, il se transforme aujourd'hui dans des petites forteresses nationales, rabougries, vulgaires et grotesques. Vous savez de qui je parle. Mais ces forteresses, elles sont toujours meurtrières et menaçantes parce qu'ils se sentent menacés et parce qu'ils ont raison de se sentir menacés. Notre combat, il est donc un, contre le colonialisme, contre l'enfermement nationaliste à l'intérieur des frontières artificielles des États européens. Et c'est un beau motif de convergence pour nous tous aujourd'hui. Et pourtant, parce que maintenant, après avoir parlé d'unité, il faut que je refragmente. Pourtant, bien que notre combat il soit un, et que nous fassions tous face au même système d'oppression, il nous faut résolument nous organiser pour nous-mêmes et par nous-mêmes,
et non pas nous fondre et disparaître dans un bloc populaire aveugle à la race, où nous disparaîtrions immédiatement au sein du camp progressiste. Nos luttes ne peuvent exister que par nous-mêmes. Nous ne pouvons exister que dans le cadre d'un rapport de force, en s'imposant au sein d'un champ politique pour lequel nous n'existons encore que comme des victimes ou comme un réservoir électoral. Salutations donc à nouveau à tous ceux qui ont fait exister et ont soutenu l'existence de notre espace souverain, j'insiste sur le mot souverain, au sein de ce beau contre-sommet, au sein de cette belle assemblée. J'insiste donc sur cette notion de souveraineté, et j'arrive vers la fin de mon intervention. L'organisation de la lutte contre l'oppression raciale, qui est consubstantielle à la lutte contre la guerre dont nous parlons aujourd'hui. L'organisation de la lutte contre l'oppression raciale, je dis donc, passe nécessairement par l'organisation souveraine de ceux qui en sont l'objet premier. À eux, à nous, revient le devoir et le droit de définir les termes et les modalités de la lutte et les conditions de toute convergence, une convergence dont vous êtes témoin aujourd'hui. C'est cela que nous appelons aujourd'hui, aux indigènes de la République, la politique des puissances. Et c'est pourquoi notre espace, dans la Bourse du Travail, se nommait espace souverain Malcolm X. Nous avons besoin d'un pouvoir noir. Nous avons besoin, Elias en a parlé, d'un pouvoir musulman. Nous avons besoin d'un pouvoir kanak. Nous avons besoin de centralité palestinienne. Nous avons besoin de voir toutes les puissances de décolonisation s'organiser sans l'entrave de toutes les réticences eurocentriques, racistes, que l'on rencontre encore dans les organisations blanches. Notre souveraineté est la condition de toute alliance et aucune lutte contre la guerre éternelle de l'Occident en déliquescence ne pourrait être victorieuse sans nous. Merci.
Merci beaucoup.